France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous vivions à Afrin, mais à cause de Daesh, tous les yézidis étaient menacés. Daesh volait les femmes et les torturait.
Vous savez, on en a eu 73 génocides et le celui qu'on a eu en 2014 à Sinjar, pour nous, c'est le 74e génocide en fait.
La France, c'est elle qui m'a aidé à échapper au massacre. Ma famille et mes amis sont dispersés un peu partout. Moi, je vois bien mon avenir en France.
L'engagement avait été pris par Emmanuel Macron, accueillir 100 femmes yézidis et leurs enfants sur le territoire français. C'est l'appel de Nadia Mourad, elle-même yézidi, ancienne captive de Daesh et lauréate du prix Nobel de la paix 2018 qui avait ému le chef de l'État. La communauté yézidi pratique une religion monothéiste qui rappelle celle de l'Iran antique. Principalement installée dans la région du Sinjar, dans le nord de l'Irak, cette minorité était protégée par la constitution jusqu'à la conquête de la région par l'organisation État islamique. Pour Daesh, les yézidis sont des hérétiques et les enfants ont été convertis de force et enrôlés, les femmes réduites à l'esclavage sexuel, les hommes exécutés. Sur les 600 000 yézidis recensés en Irak, 5 à 10 000 auraient été tués. Ceux qui le pouvaient se sont enfuis. La plupart vivent aujourd'hui dans des camps de réfugiés dans des conditions de vie précaires. La France a donc promis d'accueillir des veuves et des enfants. Les premières familles sont arrivées en décembre 2018, les dernières en novembre 2019. Mères et enfants, au total environ 500 personnes ont été réparties dans plusieurs régions de France. Promesse tenue, mais comment sont accompagnées ces familles et quel avenir leur est réservé? Du Mont Sinjar à Mâcon, l'exil des yézidis, c'est un reportage signé Nadine Epstein. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons l'avocate Clémence Bechtart. Bonjour.
Bonjour.
Vous coordonnez le groupe d'action judiciaire de la FIDH, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et bonjour Julien Boucher.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Vous nous apporterez chacun votre éclairage tout à l'heure, après avoir écouté les témoignages recueillis par Nadine Epstein. Nadine, pour ce grand reportage consacré aux yézidis, vous êtes allée en Bourgogne.
Oui, les yézidis qui vivent aujourd'hui aux quatre coins de l'Hexagone sont rarement plus de deux ou trois familles dans la même commune, bien qu'ils soient des réfugiés. Leur arrivée en France n'ont pas toutes été totalement pilotées par l'État. Dans trois villages de Bourgogne, j'ai rencontré des rescapés des griffes de Daesh qui ont fui le Moyen-Orient par leurs propres moyens ou épaulés par des associations et des responsables locaux. À Mâcon, un yézidi installé en France depuis 2001, originaire d'Arménie, m'a raconté son histoire qui, bien qu'elle se soit déroulée dans les ex-républiques soviétiques, n'est finalement pas si différente des parcours des yézidis venus du Moyen-Orient.
Vous nous emmenez d'abord dans la commune de Tézé, Nadine, communauté religieuse dont fait partie le père Charles Gène. Il suit deux familles qui sont arrivées l'été dernier dans le cadre du plan Macron.
Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Bonjour, et toi?
Ça va bien.
Madame Nadine est une dame de Paris qui travaille à la radio. Madame Nadine voulait seulement vous saluer.
Merci beaucoup.
Elle s'appelle oui. Comment?
Nadefa.
Et elle vient d'Irak ou de Syrie?
D'Irak. De Sinjar, non?
Oui.
Sinjar.
Sinjar. Oui, Sinjar.
Et elle a trois enfants. Amédi, Ardini, ils sont au collège à Cluny. Et Jian à Chissé-les-Mâcon, à l'école primaire. Au début de cette année, nous avons reçu un téléphone du ministère des Affaires étrangères qui nous demandait si nous serions prêts, disposés à accueillir des 100 familles que le président de la République avait décidé que la France accueillerait. Des familles qui sont constituées de femmes dont les maris ont été tués, ont été assassinés au moment de l'invasion de leur pays par Daesh, et des femmes qui ont plusieurs enfants. Quand on nous a demandé, on a dit oui, bien sûr, on les accueille. Nous avons été les chercher à Lyon, elles sont arrivées en pleine nuit, deux femmes d'une quarantaine d'années, qui ont une 4 enfants et l'autre 3 enfants. Et nous avions préparé une maison au cœur du village, en la divisant en deux. Cette maison avait été déjà occupée depuis plusieurs années par des jeunes réfugiés soudanais. On l'a transformée un peu de telle façon qu'il y ait deux appartements avec une cuisine, avec une salle commune, avec deux chambres, avec des lits. Et quand ces femmes sont arrivées, tout était prêt. Et donc, voilà, on les a accueillis avec leurs 7 enfants qui ont toute une échelle d'âge, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10 ans.
Et elle vous a raconté son histoire ?
Un peu, oui, un petit peu. C'est une histoire difficile aussi, le mari qui a été tué aussi. Au moment où Daesh a envahi leur pays, le mari a dit à sa femme... Pars tout de suite avec les enfants, enfuis-toi avec les enfants. Moi, je suis obligé de rester avec mon propre père qui ne peut plus marcher. Et les deux hommes ont été tués tout de suite, le mari et le grand-père, alors que la femme a pu s'enfuir dans la montagne avec les 4 enfants. Mais bien sûr, les enfants se souviennent de ça, ça date de 5 ans. Surtout le garçon le plus aîné en a été très marqué. Il n'en parle pas encore beaucoup, mais on sent bien qu'il a été très marqué par ça. À quelle heure est-ce qu'ils sont à la maison, les enfants ? Vers 5 heures.
J'ai 5 heures.
Oui. Merci beaucoup.
Je m'appelle Asia. 9 ans.
Comment vous vivez ici ?
Avec mon famille, avec l'autre, plein de l'autre famille aussi. Ils ont parlé comme nous.
Vous venez d'où ?
D'Irak.
Tu es bien ?
Oui. Ils sont tous gentils avec moi. J'ai aidé maman au travail pour les cuisines. Je cuisine du poulet. De pommes de terre, où je fais du thé, je fais du riz aussi.
Toi aussi, tu fais de la cuisine ?
Non.
Non ? Tu fais quoi, toi ?
Je lis un livre.
Je lis.
Et est-ce que tu as des souvenirs de où tu viens ?
C'est une activité à vivre.
Avion, je prends le deuxième avion. Le premier avion à Toulouse. Après le deuxième à Lyon. Après la voiture à Tessie.
Et tu te sens bien ici ?
Oui. Je joue avec mon ami.
Au football ?
Oui, au football. Et nous pas compris, il y a Google, traduit, arabe. Avant, ne sait pas parler français, il aidait nous.
Et à la maison, vous parlez ?
Kourmanji, yézidi.
Qu'est-ce que c'est qu'un yézidi ?
Je suis petit, je ne sais pas.
Yani, Diana yézidiya, Anna lalish, Anna asya mukatis.
Zidi, c'est comme l'église, il fait la prière comme ça.
يعني أمي وأبي وأخي بالعراق ووضع العراق مو زين. هيك يعني أفكر فيهم وأفكر أولادي.
Toujours elle pense elle quitter son pays, sa mari tué, pour ça elle est triste. Toujours elle pensait son mari, sa famille.
Il faut laisser passer du temps et puis peut-être les récits viendront plus tard parce qu'il faut que les récits peut-être s'expriment à un moment donné, mais quand c'est le moment, on ne peut pas forcer. Ils ont tué beaucoup d'hommes et forcément les femmes ont été meurtries, traumatisées par ça. Et certaines ont été emmenées aussi, certaines des femmes ont été prises comme esclaves et c'était très, très dur. Non, pas elle.
La première femme à avoir rendu compte de l'amère réalité des yézidis du Mont Sinjar est la députée irakienne Viad Arkil, le 5 août 2014, lors d'une session du Parlement. Bien que chahutée lors de son discours à l'Assemblée, elle va jusqu'au bout de son intervention, puis elle s'évanouit.
Monsieur le Président, sous l'étendard, il n'y a Dieu qu'Allah,
500 hommes yézidis ont été massacrés jusqu'à présent. Monsieur le Président, nos femmes sont capturées et vendues sur le marché aux esclaves. Une campagne génocidaire est actuellement mise en place contre les yézidis. Je parle au nom de notre commune humanité. Sauvez-nous, sauvez-nous. Depuis 48 heures, 30 000 familles sont assiégées sur le mont Sinjar, sans nourriture, sans eau. Elles sont en train de mourir. 70 enfants sont déjà morts de soif et de suffocation. 50 personnes âgées sont mortes dans ces conditions qui empirent. Nos femmes sont faites prisonnières et vendues sur le marché aux esclaves. Monsieur le Président, nous en appelons au Parlement irakien pour qu'il intervienne immédiatement et mette fin à ce massacre. Les Yézidis ont enduré 72 génocides et c'est en train de recommencer au XXIe siècle. L'État islamique nous massacre, on nous réduit à néant. Toute une religion est en train d'être balayée de la surface de la terre. Frères, je fais appel à vous, au nom de notre humanité, au nom de notre commune humanité, sauvez-nous.
À côté du village de Tézé, à 10 km de Cluny, à Meuny, Yveline et son père Choukri goûtent à la campagne française. Ils sont soulagés d'être là en Bourgogne, là aussi de tant d'années de guerre. Ils vivaient comme 80 000 autres yézidis en Syrie, dans l'un des 22 villages entre Afrin et Alep. Aujourd'hui, presque tout le monde a fui, peut-être reste-t-il 5 000 personnes. Pour Yveline et son père, ces 4 dernières années ont été un cauchemar. Mais l'essentiel est d'avoir survécu, disent-ils.
Quand la guerre a éclaté, on est parti à Afrin. À Afrin, tout allait bien. Les yézidis étaient reconnus comme yézidis. Il n'y avait pas vraiment de problème. On vivait normalement. Moi, je travaillais avec une association d'aide aux handicapés. On apportait des appareils auditifs aux petits et je les guidais. J'ai organisé aussi des fêtes yézidis jusqu'au jour où la guerre a aussi frappé Afrin, en 2014. Daesh et les Turcs ont attaqué. Et s'ils m'avaient attrapé, comme ils savent que je suis yézidi, c'en était fini pour moi. Autour d'Afrin, il y avait 22 villages yézidis et 360 autres villages. Afrin, c'est pas une très grande ville, mais l'État islamique et la Turquie ont envoyé 25 compagnies d'hommes qui ont envahi la ville. Et les avions bombardaient. On a vu au moins 70 avions. Nous étions à moins d'un kilomètre des combats. Alors bien que mon père soit âgé et malade, nous avons quitté Afrin. Nous sommes allés dans les villages abandonnés. Mais là non plus, on ne pouvait pas s'installer, c'était dangereux. Les djihadistes avaient laissé derrière eux des tas de mines qui ont explosé quand les yézidis venaient se réfugier. Des enfants sont morts. Et donc on est reparti, on s'est arrêté ailleurs, dans un village chiite, Zahara. Mais mon père allait de plus en plus mal. Et grâce à une ONG, il a pu être hospitalisé à Alep. C'était très difficile de lui rendre visite. On m'a forcé à payer pour me laisser passer. Ils m'ont tout pris, ma voiture et même ma montre.
Comment ça va, Choukri ?
Ça va, merci, je vais bien. Avant, j'étais très malade, mais je vais mieux maintenant, grâce à Dieu.
Vous avez quel âge ?
Mon âge ? 68 ans. J'ai fui la mort. J'ai dû me sauver pour ne pas mourir. Je suis en vie, grâce à Dieu. Mais j'ai quitté mon pays. Je n'avais pas le choix si je voulais vivre. Mais c'est triste. Les yézidis étaient bien là-bas. On est en Syrie depuis 300 ans. 6 générations, oui. J'aimais bien mon pays.
À Alep, la vie devenait de plus en plus difficile. C'était pénible à cause de la guerre. Il manquait de plus en plus de choses, la nourriture, les médicaments, l'électricité. Mon père est resté 2 mois à l'hôpital et nous sommes partis pour le Liban. À Zarhlé, nous avons été accueillis dans un foyer pour femmes. Passer de la Syrie au Liban, c'est facile. Tu donnes un peu d'argent et tu passes la frontière. Nous sommes restés 1 an au Liban.
Elle était bien bien accueilli au Liban, elle se sentait en sécurité.
Non, au Liban, ce n'était pas simple. Il y avait beaucoup de problèmes entre les communautés, entre les Libanais et les Syriens, et aussi entre les Syriens eux-mêmes. Il y avait des bagarres. Alors, je ne sortais pas de la maison. C'était impossible de travailler. Les Libanais trouvaient qu'il y avait trop de réfugiés, trop d'étrangers.
Du Liban, elle est venue en France ?
Oui, grâce à une ONG et le consulat français. J'ai fait les papiers et j'ai été autorisée à venir. J'ai obtenu aussi que mon père, vieux et malade, ne reste pas seul au Liban et il est là, avec moi.
Aujourd'hui, elle a quel statut ?
L'OFPRA examine ma demande d'asile.
Et comment elle se sent ici ?
La France, c'est elle qui m'a aidée à échapper au massacre. Ma famille et mes amis sont dispersés un peu partout. Moi, je vois bien mon avenir en France.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être yézidi ?
Yézidi est l'un des noms de Dieu. On croit en lui et à ses sept anges. Les Yézidis respectent la religion, qui n'est pas musulmane, pas chrétienne ou autre. Nous sommes un peuple simple, sans agressivité, qui ne revendique rien, ni pouvoir, ni terre, ni conquête religieuse. On est le peuple vêtu de blanc, la couleur de la pureté, de la paix, la couleur de notre lieu sacré, la lèche. On a été massacrés par l'islam ou convertis de force, mais on est toujours là et on restera yézidi, fidèle à notre Dieu unique et à sa force.
Yveline détourne le regard vers le mur où est épinglée une reproduction du temple de l'Alèche dans le Kurdistan irakien à 50 km au nord de Mossoul. Dans ce centre spirituel, haut lieu de culte yézidi, au dôme conique, couleur pierre de granit et de marbre, repose le mausolée de Cheikh Hadi ibn Musafir, père du yézidisme au XIIe siècle. Religion monothéiste de la Perse antique, les yézidis croient en Dieu qui a distribué ses pouvoirs à sept anges, le plus puissant et l'ange Pan. Sur les piliers du temple, les yézidis nouent des tissus chatoyants pour faire exaucer leurs vœux. Les traditions d'antan, cultes et coutumes qui se transmettent oralement de parents à enfants suscitent toutes sortes de mythes et fantasmes, les satanants. L'État islamique en a fait une religion maudite.
Bébé. Non, bébé.
Dans la maison à côté de celle d'Yveline et Choukri réside une autre famille yézidi depuis mai 2019, elle aussi venue d'Ifrin, chassée par l'État islamique. Falah Khalil peine dans sa nouvelle vie.
J'ai trois enfants, un bébé d'un an et huit mois, Yvan, 4 ans et demi, et Ahmed, 14 ans. Nous vivions à Afrin, mais à cause de Daesh, Daesh volait les femmes et les torturait. Tous les yézidis étaient menacés. J'avais peur moi aussi d'être capturée car je ne suis pas musulmane. Alors on est parti. Mais mon mari a été tué par un avion qui a bombardé la maison. Il est mort. Je suis restée 20 jours pétrifiée. On s'est caché de village en village. C'était dur pour les enfants. Mais heureusement, on est bien arrivé au Liban. Et de là-bas, grâce à une ONG, nous sommes ici maintenant. Mais je suis très inquiète, car mon fils Ahmed, il n'est pas avec nous. Il a été pris par Daesh en Syrie. Il vient de réussir à s'échapper. Il m'a appelé, mais je ne sais pas où il est. On s'est vu par vidéo sur le téléphone. Il avait la bouche très gonflée. Il avait mal. Là, vous voyez, je me fais du souci. Je me demande si je ne devrais pas retourner pour aller chercher mon fils.
Et comment elle se sent ici ?
C'est un village ici, à Meni. C'est petit. Je ne m'y sens pas très bien. J'aurais préféré une grande ville comme Paris. Je m'ennuie toute la journée, toute seule, à m'occuper des enfants, jouer avec eux à la maison. Et je reste entre quatre murs la plupart du temps avec les petits. C'est triste. Je ne peux pas sortir. Ma fille souffre de traumatisme. Elle fait des cauchemars à cause des avions. Et puis elle parle toute seule. C'est dur. Et mon fils, qui est là-bas, je ne sais pas quoi faire, mais j'aimerais aller ailleurs. J'ai des papiers de réfugié pour un an. Je vis avec 550 euros par mois. Heureusement qu'une fois par semaine, il y a Edith, une femme qui vient m'aider pour aller acheter ce dont j'ai besoin. Mais c'est tout. Sinon, je ne bouge pas d'ici.
La langue que parlent généralement les Yézidis est le Esdiki, mais c'était vrai il y a 50 ans. Aujourd'hui, les Yézidis qui arrivent en France s'expriment davantage en Comanchi, le dialecte kurde, connu localement sous le nom de Badini. Ils connaissent aussi l'arabe et le kurde. Les survivants des oppresseurs qui ont exterminé les hommes, violés, vendus comme du bétail, séquestrés, castrés, déplacés les femmes et les adolescents réclament aujourd'hui justice. Selon plusieurs ONG, les principaux auteurs et bénéficiaires de l'esclavagisme pratiqué sont des djihadistes venus de l'étranger, de 33 pays, dont la France, qui compte le plus grand nombre de personnes parties rejoindre les rangs de l'EI. Or, ces pays, la France en tête, ont décidé que les coupables capturés seraient poursuivis et jugés là où ils se trouvent.
Il habite l'appartement qui est situé juste au-dessus de la poste. Voilà.
Michel Maya est le maire de Tramaille, commune d'un peu plus de 1000 habitants. Bien qu'en milieu rural, Tramaille dispose de tous les commerces, plus une maison pluridisciplinaire de santé, pharmacie et clinique vétérinaire. Et le maire est fier de son village solidaire où on se rend compte que celui qu'on accompagne n'est pas si différent de soi. Alors, monsieur le maire, nous sommes sur votre commune ?
Oui, tout à fait, la commune de Tramaille, située entre le Mâconnais et le Charolais. Dans le sud de Bourgogne. Alors l'enjeu a commencé en 2015 lorsqu'il y a eu un appel, je dirais, auprès de l'ensemble des collectivités territoriales françaises. Donc on en a parlé en conseil municipal, on a réfléchi au niveau de la communauté de communes. Il nous aura quand même fallu pratiquement 8 mois entre les débuts des démarches en préfecture et l'aboutissement. Mais nous avons donc réussi à l'été 2016 à avoir tout d'abord une famille afghane. Et puis, un mois après, une famille syrienne qui sont arrivées sur la commune.
Pourquoi c'était difficile ?
Peut-être qu'on a jugé qu'en milieu rural, c'était pas vraiment pertinent, qu'on n'avait peut-être pas ce qu'il fallait en capacité d'accompagnement ou d'accueil. Mais on a quand même une énorme solidarité. Je pense que c'est surtout ça qui a pu sauver le projet.
Est-ce que le conseil municipal était unanimement d'accord ?
Alors non, on va être franc, hein, le conseil municipal n'a pas été unanimement d'accord, il y a eu un petit débat, mais il y a eu une majorité assez forte prononcée pour cet accueil. On avait ce qu'il fallait, nous, en termes de logement, donc on a pu se le permettre, et puis je dirais que maintenant, ça fait l'unanimité.
Pourquoi les réticences elles tenaient sur quoi ?
Oh ben vous savez, quand on est en milieu rural, il y a toujours des réticences vis-à-vis de l'étranger, quel qu'il soit. Hein. Moi-même, je ne suis pas né dans la commune, je suis étranger de la commune. On est tous plus ou moins étrangers. Bon, au début, on est regardé un petit peu bizarrement et puis on arrive à faire son trou.
Alors, comment sont arrivés ces Syriens ? Comment ils ont été accueillis ? Comment vous les avez installés ?
Ils sont arrivés à Tramaille un petit peu déboussolés, il faut bien le reconnaître. Ils étaient perdus dans une commune rurale comme Tramaille, mais c'est grâce à l'accueil qu'on a pu leur faire qu'ils s'y sont retrouvés tout de suite très bien. Alors on a eu surtout la chance d'avoir dès le départ aussi un accompagnement citoyen, c'est-à-dire des gens qui se sont formés en groupe, puis au sein d'une association pour vraiment répondre à certaines demandes, en particulier pour meubler les appartements, pour essayer de trouver tout ce qu'il fallait pour qu'il y ait un certain confort. Et donc on a eu un groupe quand même d'à peu près 80-100 personnes.
Ah, c'est pas mal, hein ?
Ah oui, c'est très bien.
C'est une grande solidarité,
ça. C'est une grande solidarité, et je crois que c'est ce qui a fait vraiment la richesse du projet.
Tous les Yézidis ne viennent pas du Moyen-Orient. Pacha, arrivé en France il y a 19 ans, est né en Europe de l'Est. Mais son histoire ressemble à celle des Yézidis de Syrie et d'Irak, victimes de génocide et d'exil. Ce n'est qu'en 2008-2009 que la France et l'Union européenne reconnaissent les minorités de Géorgie et d'Arménie et leur accordent asile et papiers.
Bonjour, je m'appelle Pacha, j'ai 32 ans, j'habite à Mâcon. Mes parents et moi, nous sommes arrivés en France depuis 2001, en venant de Russie.
Et pourquoi vous êtes venu en France ?
En fait, mes parents, ils ont quitté l'Arménie pendant la guerre de Haut-Karabakh. J'étais petit, je me souviens, 91, je crois. La situation est devenue très difficile avec la guerre et les gens, ils n'avaient plus rien. Et du coup, mes parents, ils sont partis pour la Russie. On est resté en Russie pendant 5 ans. Et nous étions sans statut, vu que la Russie a eu son indépendance. Et mes parents, ils avaient les passeports soviétiques. Et du coup, nous étions obligés de partir pour l'Ukraine. Vu que sur nos cartes d'identité, c'était marqué ethnie yézidi, parce que l'Union soviétique reconnaissait toutes les minorités, nous étions marqués yézidi, vu qu'il n'y avait plus de l'Union soviétique et nous n'avions pas notre propre État ou notre propre gouvernement qui pourrait nous promouvoir nos droits, en fait. Pendant 4 ans, nous étions en Ukraine, nous avons essayé aussi d'avoir un titre de séjour en Ukraine et avoir des papiers, et c'était toujours pas possible. Et du coup, mon père a décidé, on va essayer une chance en Europe, en France. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en France. Macron, c'était vraiment par hasard qu'on s'est retrouvés ici.
C'est-à-dire ?
Il y avait une panne de voiture, des passeurs, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Macron. En France, on a un peu entendu parler des yézidis. Lorsqu'on est passé à l'Opra en 2002, ils ne savaient pas qui étaient les yézidis. Il n'y avait aucune information. Pendant 4 ans, nous étions sans papier, en fait.
Quand vous dites yézidis, qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Vu que c'est un ancien peuple, la religion et le peuple identitaire est liés. On ne peut pas les séparer. Ça, c'est une religion qui est à part, qui a ses propres commandements religieux, qui a existé bien avant toutes ces religions. On trouve des similitudes, par exemple, avec certains rites chrétiens ou certains rites musulmans ou même juifs. Mais lorsqu'on trouve, par exemple, les rites comme un baptême chez les yézidis, à Kanyaspi, du coup, les gens ils pensaient que c'est une tradition chrétienne, alors que c'est des rites très anciens qui existaient avant la religion chrétienne. Par exemple, il y a des yézidis qui font la circoncision et on pensait que c'est des rites de l'islam, alors que ça existait bien avant, en Mésopotamie. C'était vraiment des anciens rites. Vu que c'est lié, le peuple et la religion, on est yézidis, on ne devient pas. Et c'est pour ça qu'on a cette tradition-là. On ne cherche pas à convertir ou de faire venir du monde dans notre communauté ou de faire pratiquer notre religion. Mais le problème, on cherchait toujours à les yézidis, soit de les identifier aux Kurdes ou des fois de les identifier à des Arabes, en fait. Mais vous savez, on en a eu 73 génocides et celui qu'on a eu en 2014 à Sinjar, pour nous, c'est le 74e génocide, en fait.
Pacha confie « Où est ta maison, là est ton pays ». Il est aujourd'hui français et ses enfants aussi. Pour autant, il ne dit pas qu'il est yézidi pour ne pas attirer l'attention et les amalgames. « On n'a jamais enterré un père dans le même pays », rappelle-t-il encore, citant quelques dates fatales. Le 15e siècle, 1700, 1830 et 1915, année du génocide arménien dans lequel ont aussi péri les yézidis. 100 ans plus tard, l'histoire se répète.
Les chansons qu'on appelle Merali, par exemple, cette chanson-là, c'est dédiée au yézidi. C'était massacré en 1915, qui exprime la souffrance qu'ils ont eue, et il n'y avait personne à leur aide. Et ils demandaient, dans la chanson, ils parlent de l'aide de Djangilara, qui était l'héros des yézidis, qui a combattu contre l'Empire Ottoman avec l'héros des peuples arméniens qui s'appelle Andranik Pacha. Et je crois qu'il est venu en France, après il est décédé en France, je crois. Et c'est ensemble qu'ils ont fait la guerre, en fait, contre l'Empire Ottoman. Et donc la chanson parle de tous ces réfugiés, leur souffrance. Et c'est une chanson très populaire parmi les yézidis. Il y a plusieurs chansons comme ça, parce que certaines chansons méraniques, ils étaient écrites pendant ces guerres ou ces massacres, c'est une façon de ne pas oublier l'histoire. aussi de transmettre une souffrance qu'ils ont eue.
Le comble des bourreaux est de faire des selfies, fiers d'eux, fiers de leur force à imposer la séparation, l'exécution, la prostitution, la stérilisation, la marchandisation et la commercialisation d'êtres humains. Leur impunité contraint les survivantes yézidis, notamment celles accueillies en Allemagne et en France, à faire connaître à tout le monde leurs vies écorchées. C'est ce que fait Nadia Mourad, lauréate du prix Nobel de la paix 2018.
Encore petite fille, je rêvais de finir mes études secondaires, d'ouvrir un salon de beauté dans notre village et de vivre près de ma famille à Sinjar. Mais ce rêve a tourné au cauchemar. Des événements inattendus se sont produits, un génocide. Chaque famille yézidi peut rapporter la même histoire, l'une plus horrible que l'autre, du fait du génocide. Dans notre histoire, nous avons subi de nombreux pogroms du fait de nos croyances et de notre religion. En conséquence de ces massacres, il ne reste plus que quelques rares yézidis en Turquie. En Syrie, qui comptait jadis quelques 80 000 yézidis, il n'en reste aujourd'hui plus que 5 000. En Irak, les yézidis font face à un destin similaire. Leur nombre a diminué de manière significative. Le but de Daesh est d'éradiquer notre religion. Nos maisons, nos familles, nos traditions, notre peuple, nos rêves, tous ont été anéantis. Ils ont été tués uniquement parce qu'ils étaient des yézidis. Au XXIe siècle, à l'âge de la mondialisation et des droits humains, plus de 6500 femmes et enfants yézidis ont été faits prisonniers, vendus, achetés, abusés sexuellement et psychologiquement. Malgré nos appels quotidiens depuis 2014, le sort de plus de 3000 femmes et enfants aux mains de Daesh reste encore inconnu. Ma communauté a été victime d'un génocide pendant plus de 4 ans. La communauté internationale n'a rien fait pour en dissuader les auteurs ou les stopper. Ils n'ont pas été traduits en justice.
Sinjar à Mâcon, l'exil des Yézidis, un reportage de Nadine Epstein avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de ce grand reportage, Julien Boucher, directeur général de l'OFPRA, et Clémence Bechtart, avocate pour la FIDH. Clémence Bechtart, on vient d'entendre Nadia Mourad qui dit « Les auteurs de ce génocide n'ont pas été traduits en justice ». Alors pour que justice soit rendue, il faut d'abord des preuves. Elles existent, ces preuves, elles peuvent être avancées devant des tribunaux.
Oui, bien sûr, elles existent. Elles existent d'abord parce que ce sont des crimes qui ont été largement documentés dès la prise du Mont Sinjar par Daesh en août 2014. D'abord, des jeunes activistes yézidis se sont mobilisés à Douk, dans le Kurdistan irakien, pour recueillir les témoignages directs des rescapés, des premiers rescapés de l'attaque et des massacres qui s'en sont suivis. Donc un travail déjà très proche des crimes qui ont été commis. Un travail qui a été réalisé sur le terrain et puis ensuite un certain nombre d'ONG et une commission aussi internationale d'enquête des Nations Unies qui ont eu à connaître de ce travail de documentation, à faire des rapports sur ces crimes et à les qualifier de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Donc oui, les preuves existent et elles existent d'autant plus qu'un certain nombre de rescapés yézidis ont livré leurs témoignages à des ONG, aux Nations Unies comme je le disais, et ont livré des récits extrêmement circonstancié, extrêmement précis de l'horreur qui s'est abattue sur la communauté yézidi à partir d'août 2014.
Et je crois que les combattants de l'État islamique ont eux-mêmes suffisamment communiqué avec des vidéos, des documents.
Bien évidemment, ils ont mis en place après l'attaque de Sinjar une vraie idéologie, une propagande qui a consisté d'abord à légitimer les crimes qui allaient être commis, le fait d'esclavagiser les femmes, d'enrôler les jeunes garçons de force, de massacrer les hommes aussi, de les convertir de force à l'islam.
Donc ils s'en vantaient.
ils s'en vantaient et ils ont rendu public non seulement cette idéologie, mais ensuite les crimes. Et on a effectivement un certain nombre de preuves que eux-mêmes ont diffusées sur les réseaux sociaux, par le biais d'Internet, avec des vidéos de propagande qui servaient à la propagande pour attirer à l'époque des combattants parmi leurs rangs, en montrant et en rendant public cette pratique et ces crimes qu'ils ont commis contre la communauté yézidi, entre autres.
Mais alors, on voit mal la justice irakienne s'emparer de ce type de plainte. Qui pourrait vraiment porter plainte ?
Alors la justice irakienne, elle ne le peut pas pour de multiples raisons. Elle ne le peut pas et elle ne le veut pas. Il n'y a pas de volonté politique. L'ensemble des membres de l'État islamique, qu'ils soient d'ailleurs irakiens ou étrangers, qui ont été jugés en Irak, l'ont été seulement en vertu d'une loi antiterroriste. Avec absolument pas de témoignages ou de récits de victimes qui ont été pris en compte, qui ont donné lieu à des procès expéditifs, qui ont été largement dénoncés et parfois, bien souvent, à des condamnations à mort. Donc il n'y a aucune volonté en Irak de juger ces crimes et de rendre justice aux victimes. Les regards se sont d'abord tournés, il faut le dire, vers la Cour pénale internationale en espérant qu'elle pourrait être saisie, qu'elle pourrait ouvrir une enquête. L'Irak n'a pas ratifié, mais s'en rend dans des arguments juridiques assez complexes. Il y avait quand même des moyens, il y aurait eu des moyens pour que la CPI puisse ouvrir une enquête. Ça n'a pas été le cas.
Pour quelle raison ?
Parce que le critère juridique qui donnait la compétence à la Cour pénale internationale a été jugé trop étroit par la procureure Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale. Elle avait été saisie de plusieurs plaintes avec des témoignages, une documentation très circonstanciée. Et elle a pris position en disant qu'elle pouvait continuer à analyser, mais que pour l'instant, c'était à l'époque en 2016, elle n'avait pas suffisamment de critères pour pouvoir ouvrir une enquête.
Donc il y a d'autres options.
Il y a d'autres options, et d'abord les justices européennes, parce qu'on le sait, ça a été documenté, notamment par l'AIFIDH, et dans un rapport qu'on a sorti il y a un peu plus d'un an, parmi les bourreaux de l'État islamique, il y avait des djihadistes étrangers et des djihadistes européens, des Français, des Allemands, des Belges, qui ont été mis en cause par les victimes elles-mêmes, par les rescapés, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces familles yézidis, elles ont parfois passé de longs mois en compagnie de leurs bourreaux, elles étaient détenues, esclavagisées, violées, affamées, leurs enfants étaient menacées, privées de soins, privées de nourriture. Mais donc, elles ont côtoyé leurs bourreaux et elles avaient énormément d'informations très précises à donner sur leurs bourreaux et parfois sur leur nationalité. Et c'est comme ça qu'on a pu, en recoupant ces récits, retracer et identifier un certain nombre de membres d'États islamiques qui sont des ressortissants d'États européens.
Et identifier nommément, pas simplement connaître leur nationalité ?
Pas leur état civil, mais parfois avec leur kunya, leur nom de guerre, et puis avec des éléments assez précis. On a des femmes qui nous racontaient que leur bourreau leur racontait leur vie avant en France ou en Allemagne, donc avec des éléments sur leurs femmes qui les avaient parfois rejoints en Syrie, puisqu'à ce moment-là, elles étaient souvent détenues dans des villes syriennes, sur leurs enfants, un certain nombre d'éléments physiques, de détails physiques, enfin voilà, des éléments qui permettaient leur accent, la manière dont ils étaient appelés, aussi surnommés, le français, l'irakien, le libyen, par leur co-religieux de Daesh. Donc elles avaient un certain nombre d'éléments qui nous ont permis de penser qu'il s'agissait en effet de ressortissants, encore une fois, européens.
Mais donc si la justice française s'emparait de ces dossiers, on pourrait retrouver ces personnes, ces auteurs de crimes ?
Bien sûr, on pense que oui, la justice française a les moyens de le faire. Et il y a d'ailleurs une enquête qui a été ouverte dès 2016, ici en France, une enquête préliminaire en février 2016 qui vise des faits de génocide et de crimes contre l'humanité commis par les yézidis par des ressortissants français. Enquête à laquelle l'AIFIDH a collaboré pour essayer de que ces femmes yézidis puissent témoigner, puissent livrer leur témoignage, puissent apporter ces informations-là. Et cette enquête, elle a donné lieu très récemment, en octobre dernier, à l'ouverture d'une information judiciaire, c'est une première en France, contre un ressortissant français, Sabri Essid, qui est présumé mort, mais dont on n'a pas la preuve qu'il est bien mort. Et on sait qu'il y a un certain nombre de combattants qui avaient été déclarés morts, qui ont ressurgi ensuite. Et cette information judiciaire, elle a été ouverte pour génocide et crimes contre l'humanité. Donc c'est une première en France, et ça avait été précédé d'autres efforts et d'autres enquêtes qui ont été ouvertes, notamment en Allemagne, et qui vise des Allemands, mais aussi des Irakiens, pour des faits de génocide et de crimes contre l'humanité commis contre les yézidis.
Il y avait notamment une petite fille qui était morte de faim.
Tout à fait, un procès qui s'est ouvert l'année dernière contre une femme djihadiste, donc l'épouse d'un djihadiste allemand qui avait lui-même acheté une femme yézidi et qui la retenait captive avec sa petite fille. Ils avaient laissé cette petite fille mourir de faim et de soif. Et le procès s'est ouvert l'année dernière et il est toujours en cours en Allemagne contre cette femme pour avoir donc participé au crime commis contre cette jeune enfant yézidi et contre sa mère qui était retenue captive. Donc il y a des efforts qui sont certes étroits, c'est pas ce qu'aurait pu donner une enquête de la Cour pénale internationale ou la mise en place d'un tribunal international qui permettrait d'appréhender tous les bourreaux, d'enquêter sur tous les crimes. Mais c'est déjà une avancée qui est importante, parce que ce qu'il faut rappeler, et on le sent bien dans votre reportage, c'est que derrière cette souffrance, il y a une demande très forte de justice de la part de la communauté yézidi. Une demande de justice qui est à de multiples niveaux, qui est aussi une demande de reconnaissance de leur statut de victime, une demande de sanction des bourreaux, une demande aussi de reconnaissance de leurs droits, et puis une demande d'une vérité judiciaire. On le dit, on l'entend souvent, c'est un génocide qui a été commis. Donc il y a cette demande de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi à un moment donné on a voulu effacer l'identité yézidi, pourquoi ces femmes et ces enfants ont été réduits à l'esclavage. Et cette demande de justice, elle est très forte et il faut y répondre. Il est urgent et essentiel d'y répondre aussi pour pouvoir prévenir la répétition de ces crimes à l'avenir.
Et là aujourd'hui, Clémence Bechtart, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la France ?
Un engagement fort, il est important. On le sait, il y a énormément de djihadistes français revenus de Syrie et d'Irak qui sont entre les mains de la justice française, d'autres qui sont visés par des mandats d'arrêt, mais qu'ils sont quasi exclusivement sur des charges de terrorisme pour l'instant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que quand les preuves sont là, ces charges de génocide et de crimes contre l'humanité soient retenues, qu'elles fassent partie des accusations, des poursuites, pour que les victimes yézidis, mais aussi d'autres victimes, parce que les yézidis n'ont pas été les seules victimes de l'État islamique, il faut le rappeler, puissent avoir droit de cité, puissent livrer leur témoignage et qu'on puisse leur rendre justice à travers ces procès-là. Il s'agit de ressortissants français qui ont commis des crimes terribles contre des populations civiles et il faut aussi que ces crimes-là soient mis en lumière et pas seulement des infractions terroristes qui constituent le simple fait de prouver qu'ils sont partis en Syrie ou en Irak et qu'ils sont ensuite revenus en France après avoir combattu sous le drapeau de l'État islamique.
Alors je reviens vers vous, Julien Boucher. La France s'est donc engagée dans l'accueil de familles yézidis, comme le montrait le reportage de Madame Nadine. Il y avait un cadre strict pour cette opération exceptionnelle d'accueil de familles yézidis. Pour être prise en charge, il fallait être une femme seule, avec enfant. C'était faute de place, on a accueilli les personnes les plus vulnérables, celles qui étaient dans la plus grande urgence.
Alors, je vais revenir dans un instant sur cette pour répondre à votre question. Peut-être juste, si vous me le permettez, un petit complément à ce qui vient d'être très bien dit par Clémence Bechtart, pour souligner que les autorités françaises ont appuyé de diverses manières la documentation des violations massives des droits de l'homme qui ont eu lieu en Syrie et en Irak, et notamment la collecte des preuves en appuyant le travail des ONG, y compris financièrement. Vous avez évoqué le rapport de la FIDH justement sur les crimes sexuels des djihadistes étrangers en Irak, et aussi en soutenant politiquement les différents mécanismes qui ont été mis en place par l'ONU pour collecter des preuves qui soient aux standards juridictionnels et qui puissent ensuite être utilisées, quelles que soient les juridictions et les procédures dans lesquelles elles viendraient être rendues nécessaires. On a un mécanisme, on a la commission d'enquête Pinheiro qui en Syrie, on a un mécanisme d'enquête supplémentaire qui a été créé par l'Assemblée générale, et la France a coparrainé la résolution du Conseil de sécurité qui a mis en place l'équipe d'enquête sur les crimes de Daesh en Irak. Voilà, je voulais rappeler cet élément de contexte. Voilà, sur l'opération, je dirais, de réinstallation de familles yézidis dont il a été question dans le reportage. Alors c'est une opération qui est à la fois exceptionnelle et en même temps emblématique des priorités de l'action de la France en la matière. Elle est exceptionnelle parce qu'elle est née, il faut garder ce contexte présent à l'esprit, elle est née d'une rencontre entre le président de la République et Nadia Mourad, juste après l'obtention de son prix Nobel de la paix, et le président de la République, à l'occasion de son entretien avec Nadia Mourad, s'est engagé à ce que la France accueille 100 familles yézidis et 100 des familles constituées de femmes isolées, dont les maris étaient soit portés disparus, soit dont le décès avait été avéré, et leurs enfants, parce que ça correspondait aussi à la situation que Nadia Mourad avait le plus fortement portée au niveau international, puisqu'elle a aussi élargi son combat en faveur de la communauté yézidi à l'ensemble des victimes, des femmes victimes de violences sexuelles, notamment dans le contexte des conflits. Donc c'est un engagement un peu exceptionnel qui correspond à cette situation-là. Mais c'est aussi un engagement qui est très cohérent avec les orientations de la politique de la France en la matière, c'est-à-dire à la fois un engagement fort sur le soutien aux victimes des violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. Il y a eu en 2015 la conférence de Paris, il y a un fonds de soutien qui a été mis en place, il y a diverses actions humanitaires d'aide à la reconstruction qui ont été mises en œuvre, y compris dans le Sinjar, la région d'origine des yézidis, avec des projets emblématiques comme la construction d'un nouvel hôpital. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là.
Mais les autres yézidis ont subi les mêmes persécutions, c'était le sens de ma question. Pourquoi se limiter à des femmes seules avec enfants ?
Encore une fois, parce que ce sont parmi, il est toujours difficile d'établir des degrés, mais parmi les plus vulnérables de ces personnes qui vivent aujourd'hui pour la plupart dans des camps, donc dans le gouvernorat de Dohuk, dans le Kurdistan irakien, ou parfois en dehors des camps, et que ce sont des femmes qui ont pour certaines connu l'exode à l'arrivée de l'État islamique dans les conditions qui ont été rappelées dans le reportage sur le mont Sinjar, avec une mortalité terrible due à la fois au combat et aux conditions dans lesquelles cet exode a eu lieu, et des femmes qui ont été réduites en esclavage par Daesh avec leurs enfants. Donc
notre capacité d'accueil n'est pas suffisante pour élargir à d'autres yézidis qui sont aujourd'hui dans les camps de réfugiés.
Pourquoi se limiter à 100 familles monoparentales?
C'est un engagement dont il faut avoir présent à l'esprit, qui s'inscrit dans le cadre d'engagements globaux en faveur de la réinstallation de réfugiés particulièrement vulnérables en France. Sur les années 2018 et 2019, la France a réinstallé environ 10 000 réfugiés sur son sol.
On a d'ailleurs fait un grand reportage sur ce thème assez récemment.
Voilà. Donc c'est un élément. Il y a aussi d'autres besoins de réinstallation qui sont mis en avant par le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Donc la France et l'OFPRA a été présent pour entendre ces personnes. Donc des notamment beaucoup de réfugiés syriens qui ne sont pas nécessairement des mais qui ont été réinstallés, et aussi en direction de l'Afrique subsaharienne pour des personnes qui ont pu notamment être exfiltrées de Libye, où, comme vous le savez, les conditions de vie et de détention sont particulièrement dramatiques.
Nadine Epstein.
Les yézidis qui sont pas venus dans le plan Macron ont-ils les mêmes statuts?
Comme Evelyne et son père, par exemple, qu'on entendait dans le reportage.
Est-ce qu'il y a un statut pour tous, pour tous les yézidis?
Alors, les familles que l'on a fait venir dans le cadre de cette opération spécifique, donc, ont été accueillies en France avec le statut de réfugié. C'est d'ailleurs bien pour ça que l'OFPRA a participé aux côtés de nombreux acteurs, puisque tout ça a été coordonné par le Quai d'Orsay. Et c'est vraiment une opération multipartenariale qui a été très mobilisatrice, parce qu'elle était vraiment très porteuse de sens pour l'ensemble des acteurs. Et donc, l'OFPRA, en tant qu'autorité chargée d'octroyer le statut de réfugié, l'OFPRA habituellement entend les personnes sur le sol, sur le territoire national, puisque les demandes d'asile doivent être déposées en France. Mais encore une fois, dans le cadre de ces engagements volontaires que prend la France d'accueillir, de faire venir légalement sur son sol des personnes en besoin particulier de protection, eh bien, nous allons à l'étranger pour entendre les personnes de façon à ce que lorsqu'elles arrivent sur le sol national, on ait déjà vérifié leur éligibilité au statut et donc elles obtiennent le statut de réfugié très rapidement sans avoir à engager une procédure. Donc c'est ça la différence. Une personne qui va arriver par d'autres moyens, parfois sous couvert d'un visa pour asile, c'est-à-dire un visa qui aura été délivré par un poste diplomatique ou consulaire français à l'étranger pour, en vue de solliciter l'asile en France, eh bien, elle va rentrer dans la procédure, je dirais, d'asile habituelle et pourra, si les conditions sont remplies, obtenir le statut de réfugié.
Donc effectivement, voilà, Yveline, elle a sa demande d'asile qui est en cours d'examen. Quand on est yézidi, compte tenu de tout le contexte qu'on a rappelé, la demande d'asile a toutes les chances d'aboutir ?
Oui, alors il est toujours, il y a un principe cardinal dans l'examen des demandes d'asile, vraiment essentiel, j'y insiste, c'est un examen individuel. Chaque cas doit être traité individuellement à l'occasion donc d'un entretien individuel qui est vraiment la pièce maîtresse. Bon, évidemment, dans le cas des yézidis d'Irak et de Syrie, compte tenu de tout ce qu'on a dit et du fait que aujourd'hui les conditions de sécurité et d'un retour, je dirais, en toute sécurité dans leur région d'origine ne sont pas remplis. D'ailleurs, les retours sont pour l'instant très, très limités.
Il y en a eu.
La reconstruction est en cours et j'ai dit que la France y contribuait, notamment en ce qui concerne les infrastructures hospitalières. Mais ils sont encore limités pour beaucoup de raisons, parce que il y a les destructions, il y a les conditions de vie sur place, il y a les tensions intercommunautaires, la difficulté de recohabiter avec les voisins d'hier, beaucoup de choses qui rendent le retour extrêmement difficile.
Des règlements de compte entre milices aussi, donc la sécurité n'est pas complètement voilà, garantie.
Tout à fait, la situation sécuritaire reste très, très volatile sur place.
Alors, quel a été l'engagement pris vis-à-vis de ces familles accueillies dans le cadre de cette opération ? Combien de temps est-ce qu'elles vont être suivies, accompagnées ? De quelle manière ?
Alors, l'engagement qui a été pris d'emblée, qui ressemble d'ailleurs à ce qui est fait dans le cas des autres actions de réinstallation, c'est que donc l'État a conventionné avec un certain nombre d'acteurs associatifs, hein, qui sont coutumiers, pour la plupart d'entre eux, de l'accueil et de l'accompagnement des réfugiés, pour accompagner sur une durée en principe d'un an, ces familles. Alors les accompagner, ça veut dire d'abord le logement, c'est la première chose, donc avec un système de bail glissant qui est donc d'abord souscrit par l'opérateur et qui ensuite pourra au fur et à mesure en fonction de l'autonomisation des familles, et eh bien glisser au nom de ces familles. Ça a été l'accompagnement dans les démarches pour l'ouverture des droits civiques, sociaux, l'obtention des titres de séjour, etc. Ça a été aussi l'accompagnement médical, hein, avec un bilan médical à l'arrivée, et puis aussi un suivi, notamment sur le plan psychologique, qui est absolument nécessaire, compte tenu, ça a été aussi évoqué dans le reportage, du traumatisme qui a été subi par ces par ses familles, traumatisme de l'exode ou de l'esclavage aux mains de Daesh, traumatisme de la perte des proches parfois presque sous leurs yeux, traumatisme des conditions de vie des personnes déplacées au nord de l'Irak, et puis aussi ne l'oublions pas, parce que c'est vrai que le statut de réfugié offre l'espoir d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, mais l'exil est en soi toujours une césure, une rupture et un deuil qu'il faut faire d'une vie passée pour se reconstruire.
Mais alors Julien Boucher, justement en contenu de tout ce que vous venez de décrire, est-ce qu'un an ça suffit? Parce qu'on voit des mamans de familles nombreuses qui arrivent en ne connaissant aucun mot de français, ne sont pas du tout en situation de travailler. Comment est-ce qu'on peut estimer que au bout d'un an, elles seront capables d'être autonomes financièrement, insérées socialement?
Vous avez raison, il faudra que ça se fasse de manière en fonction de ce qu'on pourra constater effectivement en termes d'accès à l'autonomie, hein, puisqu'on arrive là à peu près à un an des premières arrivées qui ont eu lieu à la toute fin de l'année 2018, eh bien un bilan est en train d'être réalisé pour entre les différents acteurs de l'accueil de ces familles, eh bien vérifier où on en est, voir ce qui reste nécessaire, les progrès qui ont été accomplis, les difficultés qui ont été rencontrées. Le fait que le programme ait été bâti avec sur le principe d'un accompagnement d'un an ne veut pas dire que ces familles vont être livrées à elles-mêmes indépendamment de la capacité qu'elles auront montrée à s'insérer dans la vie en France.
Et est-ce qu'il est envisageable que cette opération soit reconduite, c'est-à-dire renouvelée avec de nouvelles familles? Si Nadia Mourad relance Emmanuel Macron, elle a des chances d'être entendue?
Alors, c'est une question qu'il faudrait poser, je pense, au président de la République. Mais comme ça a été évoqué dans le reportage, il y a, indépendamment de cette opération spécifique, un travail important de la France en matière de réinstallation de réfugiés qui est susceptible de concerner des yézidis. Il y a d'autres voies légales d'accès au territoire français, le visa pour asile comme je l'ai indiqué. Donc ça n'est pas nécessairement la fin de l'histoire.
Les portes restent ouvertes. Clémence Bechtart, un tout petit mot pour compléter.
Oui. D'abord, rappeler une chose, ça m'y faisait penser en entendant M. Boucher, il faut toujours le rappeler, le premier souhait de ces femmes et de ces familles, parce qu'on en a rencontré beaucoup alors qu'elles revenaient de captivité, c'était d'abord de regagner leur village et de pouvoir rentrer dans le Sinjar. Ensuite, elles ont vu que c'était impossible parce que, en effet, les conditions de sécurité ne sont absolument pas réunies aujourd'hui. Et elles se sont d'abord tournées vers l'Allemagne, l'Australie et le Canada, qui sont des pays qui ont accueilli par milliers des réfugiés yézidis et organisé des programmes ambitieux de relocalisation. Donc on espère effectivement que l'engagement pris du président Macron auprès de Nadia Mourad sera renouvelé et qu'un plus grand nombre de femmes pourront être accueillies en France.
Merci Clémence Bechtart, merci Julien Boucher. Du Mont Sinjar à Mâcon, l'exil des yézidis. Le grand reportage de cette semaine était signé Nadine Epstein. Réalisation Annie Brault avec Théo Gomard à la technique. Merci à l'équipe de la documentation d'actualité. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.